Alors, on va commencer notre 70e leçon. Ce soir, c'est le postmodernisme, une attaque sur le christianisme biblique, la deuxième partie. Alors, on avait vu la semaine dernière la première partie. On va réviser très rapidement. On avait présenté le fait que c'était comme une adaptation du document Postmodernism du pasteur baptiste Errol Hulse, qui est disponible sur Mount Zion. Et il expliquait qu'on vivait à une époque où il y avait ce que lui appelle un méga shift. Donc, c'est une manière de penser vraiment qui est très, très différente de la précédente, donc le modernisme. Alors, on l'avait défini un petit peu, qu'est-ce que c'était le modernisme. On avait regardé aussi comment notre confession de foi nous dit qu'est-ce que c'est un métarécit. Et un métarécit, c'est tout simplement une façon de voir la vie qui, à partir du début jusqu'à la fin. Et nous, on a un métarécit. Et une des idées fondamentales du postmodernisme, c'est que le métarécit, selon eux, c'est dépassé, ça n'existe plus. Alors, on avait vu regarder ça rapidement. Alors, vraiment, une de leurs caractéristiques, c'est vraiment cette négation. Et ils font avec une grande vigueur de l'existence d'un métarécit. On avait vu que c'était l'influence de philosophes français, Jean-François Lyotard. Et eux, ce qu'ils affirment, c'est qu'il n'y a pas d'absolu fixe. Et on avait vu le modernisme face au postmodernisme. Et c'est important de le situer un petit peu. Selon un auteur chrétien, Thomas Hodden, le début du modernisme a commencé avec le début de la Révolution française en 1789. Et la fin, ce serait en 1989, avec l'écroulement du mur de Berlin qui a mis fin au système capitaliste. Donc, dans le fond, ce qu'on regarde, le début en 1789, ça mettait fin au système féodal et monarchique. Puis, 1989, ça met fin au système communiste. On avait vu que dans la définition du postmodernisme, il y avait quatre volets. Dans le premier était la déconstruction. On avait vu la semaine dernière trois grands bâtisseurs du postmodernisme, donc Roland Barthes, Michel Foucault et Jacques Derrida. Et l'idée commune que ces hommes-là préconisent dans leurs œuvres, c'est que le langage humain, écrit ou parlé, ne réfère pas à un monde objectif, parce que les auteurs ne sont plus là et que l'on peut donner à leurs affirmations la signification que l'on veut. Donc, on avait commencé un petit peu à regarder la déconstruction. On avait vu qu'il y avait trois autres volets, qui étaient le relativisme moral, le pluralisme et aussi l'existentialisme. Alors, on avait vu la semaine dernière, on avait tout regardé en quoi consiste le déconstructionnisme. On était rendu au deuxième aspect. On va continuer à partir de là. Donc, le deuxième aspect, c'est à la page 11 du document, c'est le relativisme moral. Alors, le théologien Francis Schaeffer décrit un absolu comme un concept qui ne peut être modifié par des facteurs tels que la culture, la psychologie individuelle ou les circonstances, mais qui est parfait et inchangeable. Un absolu, bien entendu, c'est absolument le contraire, l'antithèse du relativisme. Alors, le nihilisme, qui est une philosophie, est un déni de toute base objective pour la vérité. Alors, le postmodernisme, comme philosophie, est nihiliste. Donc, ça nie toute base objective de la vérité. Alors, le dictionnaire Concise Oxford Dictionary, qui est un dictionnaire anglais, définit le nihilisme comme étant des doctrines négatives, un rejet total des croyances courantes, tant en religion qu'en morale. Les nihilistes prétendent que la vérité absolue ne peut avoir de base solide. Pour les chrétiens, la Bible est la parole de Dieu inhérente. Donc, par inhérente, on entend sans erreur. Dans cette parole, nous avons l'absolu de l'être de Dieu, l'absolu de l'immuabilité du décalogue, donc des 10 commandements, l'absolu de la deuxième venue du Christ pour le jugement, et bien entendu, il y a d'autres certitudes, la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ et la valeur de son œuvre. Alors, quand ils renient toute possibilité, alors pour eux, tout est relatif, tandis que la Bible est remplie d'absolu. Alors, dans Hébreux, chapitre 10, verset 14, ça nous dit « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Alors, le relativisme moral est supporté par la croyance populaire que l'homme a évolué des animaux. La presque totalité des livres de biologie moderne publiés par les éditeurs séculiers ont été écrits avec un présupposé évolutionniste. L'évolution est une philosophie qui clame sa capacité d'expliquer les origines de l'homme et de l'univers. Le système, bien entendu, veut absolument exclure Dieu de la pensée humaine et même de l'univers créé. Tous les opposants sont ouvertement ridiculisés. Alors, les conséquences morales du concept sont visibles, par exemple, dans le fait que Hitler et les Allemands ont tenté de supprimer la race juive et d'exterminer ce qu'eux considéraient comme étant des faibles. Le marxisme, enflammé par la même idée, a bien entendu lui aussi semé la misère sur la terre. Il est donc impératif pour les chrétiens de prêcher plus que jamais sur le décalogue et d'exposer sa signification aux consciences modernes. L'explication, par exemple, de Paul aux Romains est particulièrement pertinente. Alors, dans Romains 7, les versets 8 à 12, il fait vraiment l'exposition du dixième commandement, et c'est ça qui l'amène au rejet de sa justice propre. Et ça dit dans le verset 8, « Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » Alors, contrairement au postmodernisme, Paul vivait dans un cadre qui acceptait l'histoire de la révélation. Comme on peut le lire, par exemple, dans Romains, chapitre 2, versets 14 et 15, quand on dit « Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. » Alors, l'application pour nous chrétiens modernes, l'application à la conscience des vérités absolues du décalogue est d'une importance capitale. Alors, si on prêche l'Évangile et qu'on n'a pas d'abord préparé l'esprit et le cœur de la personne en lui présentant, montrant la loi de Dieu, les 10 commandements, on fait fausse route parce que la Bible nous dit que c'est par la connaissance que la loi amène la connaissance du péché. Alors, bien sûr, il faut commencer par montrer aux gens qui sont dans le trouble, pour ensuite leur présenter la solution de l'Évangile. Alors, bien entendu, cette application à la conscience des vérités absolues, des 10 commandements, c'est d'une importance capitale, et ça peut être accompli par la prédication de commandements spécifiques ou de déclarations bibliques reliées directement à la loi morale de Dieu. Par exemple, si on prêche sur Hébreux, chapitre 13, verset 4, on prêche sur un commandement de Dieu qui dit, pas vraiment un commandement tel qu'il est écrit dans le décalogue dans Exode 20 ou Deutéronome 5, mais d'un autre côté, ça prêche quand même une loi morale, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Alors, il est également impératif de parler fréquemment de la réalité du grand jour du jugement. Alors, voici un plan de sermon du pasteur Sinclair Ferguson sur le texte de Matthieu 25, 31-46. Autrement dit, ce qu'il est en train de nous dire, il faut ramener le commandement de Dieu et il faut aussi ramener l'idée du grand jugement final. Alors, si on ne fait pas ça, quelque part aussi, on manque le bateau. Alors, son plan se lit comme suit. Le premier point, le jugement final, sa certitude. Autrement dit, c'est comme un outline ou un plan qui s'est fait pour prêcher sur Matthieu 25, 31-46. Donc, dans le premier point, il parle des promesses des Saintes Écritures, il parle de la description du jugement final par Christ lui-même, il parle de la loi de Dieu, que la loi de Dieu exige qu'il y ait un jugement final, et il explique, on devrait, du moins si on prêcherait sur ce passage-là, parler que la conscience confirme qu'il va y avoir un jugement final et que la justice de Dieu le requiert. Dans son deuxième point, qui propose comme étant un sermon sur lequel on pourrait se baser pour parler de la réalité du grand jour du jugement, il parle le jugement final, sa manière. Donc, on se doit de rappeler aux gens que celui qui va juger, ça va être Christ lui-même qui va être le juge, et que le jugement sera pour toutes les nations, le jugement sera pour tous les individus, le jugement sera selon les œuvres, et le jugement comportera des implications sur la destinée éternelle du ciel ou de l'enfer. Alors, les prédicateurs puritains démontraient beaucoup de fidélité et d'efficacité dans leur prédication sur le grand jugement. Nous devrions suivre leur exemple. Premièrement, ils reconnaissaient l'importance du grand jugement comme une partie intégrante de l'Évangile chrétien. Deuxièmement, ils utilisaient avec puissance les pouvoirs de l'imagination pour exprimer cette vérité pour que les auditeurs sentent la réalité de ces choses sans cependant se laisser entraîner en dehors des Saintes Écritures. Autrement dit, on se doit de le prêcher avec le plus de vigueur possible, le plus d'appel à l'imagination des gens, mais en ne sortant pas des Écritures, parce qu'on peut facilement déraper, là. Alors, la troisième chose qu'on se doit de faire pour les imiter, c'est qu'ils pratiquaient la méditation fréquente sur ces réalités de manière à ce qu'ils vivent quotidiennement la lumière de l'éternité. Alors, Jonathan Edwards, c'est lui qui a prêché le fameux sermon le Dieu en colère. Il utilisait, pour lui, c'était une réalité quotidienne, de toujours penser que les gens qui sont en avant de toi sont comme sur un plancher de bois pourri. Ils vivaient en fonction de la réalité des deux réalités, de la réalité des deux réalités du ciel et de l'enfer. Et nous aussi, on se devrait de penser de plus en plus en ces termes-là. Alors, la réponse au relativisme moral, bien entendu, c'est la proclamation vigoureuse des vérités absolues de la Bible, dont les exigences de Dieu pour les 10 commandements et la réalité du grand jugement final de Dieu. On est rendu au troisième aspect du postmodernisme. Alors, le postmodernisme, le pluralisme. Alors, on a vu dans les leçons précédentes l'écuménisme, et l'écuménisme vraiment ouvre la porte au pluralisme toute grande. Alors vraiment, le pluralisme, ça fait partie du problème de l'écuménisme, et c'est une partie intégrante du postmodernisme. Alors on peut observer le pluralisme dans une grande variété de races, d'héritages, et de systèmes de valeurs. Dans une grande ville, maintenant, on peut voir des lieux de rassemblement de musulmans, de bouddhistes, de chrétiens et de bien d'autres choses encore. Alors, la philosophie de base du pluralisme est que toutes les opinions religieuses ont la même valeur et que cette valeur est strictement limitée aux personnes qui les adoptent. Autrement dit, C'est mon Brejeau, c'est mon Brejeau, c'est mon Brejeau, mais ça ne peut pas être la vérité absolue. Alors, l'idée prédominante est que les valeurs absolues ont mené aux querelles, aux guerres et aux persécutions. Les postmodernistes affirment donc que la valeur suprême est la tolérance et que l'hérésie suprême est d'affirmer que seule sa religion est correcte et vraie et que toutes les autres sont fausses et dangereuses. Pourtant, les Saintes Écritures nous disent de façon très claire dans Actes 4:12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » C'est-tu clair? C'est très clair, et si nous, on se dit chrétien et qu'on dit qu'on croit au livre des Saintes Écritures, ce n'est pas le seul verset, mais c'est un verset d'une clarté telle. Alors, il ne faut pas avoir peur d'affirmer les vérités que la Bible nous dit. Il n'y a pas de salut en dehors de Christ. Alors, si c'est une distorsion de la personne de Christ ou si c'est une négation de la personne de Christ, les gens ne pourront pas aller au ciel avec ça. Mais aujourd'hui, à cause dans le postmodernisme, mais aussi ça va me revenir. Et il y a un autre verset, il y en a sûrement d'autres. L'écuméniste, c'est ça le mot que je chercherai, l'écuméniste. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça aussi, c'est fort. Comme. Alors, on ne peut pas à la fois dire que les autres religions vont quand même aller au ciel, ou on croit la Bible, ou on croit ce que les hommes voudraient que ce soit. On estime qu'il y a eu 60 milliards de personnes qui ont vécu sur la Terre depuis les débuts. Nous savons que chaque personne est unique. Cependant, l'unicité de Christ est infiniment différente de l'unicité de nous entre nous comme individus. Premièrement, Jésus avait été prophétisé de façon détaillée par des prophètes des siècles avant sa naissance. Quand le Seigneur, on peut prendre toutes les Écritures à partir du début, tous les livres parlent de Christ. Tous les prophètes ont parlé de Christ, les petits, les grands. Alors, ils ont tous révélé un aspect ou un autre, ou une vérité ou un autre, de la venue de Christ. La deuxième chose qui le rend complètement, mais absolument unique, c'est qu'il est né d'une vierge. Il n'y a pas personne d'entre nous qui est né d'une vierge. C'est le seul être humain qui était à la fois homme et Dieu, mais qui est né d'une vierge. Troisième unicité absolue de Jésus-Christ, qu'il a mené une vie sans aucun péché. Quatrième unicité, Jésus a fait des déclarations sur sa déité. Lui-même a affirmé qu'il était Dieu. Cinquième unicité, Jésus a supporté ses déclarations par des miracles. Et sixième unicité, Jésus s'est sacrifié lui-même pour mettre fin justement au sacrifice, au système sacrificiel. Septième unicité, Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Huitième, Jésus a gardé sa promesse de bâtir l'Église, malgré toutes les immenses... On vient de finir un cours sur l'histoire de l'Église. On sait qu'il y en a eu des difficultés, il y en a eu des obstacles. Est-ce que Jésus avait dit qu'il bâtirait son Église? Il l'a bâti. On a vu, je pense, dans la leçon précédente, je ne me souviens plus dans combien de langues et de pays que le Seigneur a bâti son Église. Et aussi, les Écritures affirment que Jésus est le Créateur du monde. Alors, la Bible dit que c'est Dieu. La Bible dit aussi que c'est Christ. La Bible dit aussi que c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est le Dieu trinitaire. Et autre unicité, dernière unicité, Jésus est le juge de toute l'humanité. Le Coran, par exemple, reconnaît sa naissance virginale, reconnaît sa vie sans péché, reconnaît son futur retour. Mais il nie sa mort vicariale et substitutive sur la croix. Et ça, c'est pas une erreur petite, une erreur énorme. Une erreur qui a des conséquences dans l'éternité. Dans le salut, Jésus est unique en pourvoyant à la justice imputée, exigée par Dieu le Père, en subissant le châtiment à la place de ses élus et en intercédant présentement pour ceux qui sont venus au Père à travers lui. Son salut sera complété dans le futur lorsqu'il donnera des corps glorifiés aux véritables croyants. Il est plus qu'évident qu'aucun autre homme ne peut faire une telle œuvre parce que tous sont sujets à la mort et au tombeau. Et le quatrième aspect du postmodernisme, l'existentialisme. Alors, l'existentialisme est sœur du postmodernisme. En termes philosophiques, Søren Kierkegaard, qui a vécu entre 1813 et 1855, est perçu comme le père de l'existentialisme. Même si l'existentialisme a précédé le postmodernisme, il en fait partie intégrante. Kierkegaard avait réagi contre le christianisme du Danemark en mettant un fort accent sur l'authenticité du chrétien comme individu. L'existentialisme est surtout concerné par la nature de l'être et de l'existence. Il perçoit le monde objectif comme étant absurde et sans signification humaine. Je me souviens, quand j'étais au cégep, on étudiait la littérature, on étudiait Jean-Paul Sartre, on étudiait d'autres philosophes, qui Albert Camus, et c'était... Lire ça, c'est démoralisant au maximum. L'existentialiste croit qu'il n'y a pas de signification en absolument rien ou en absolument personne. Dans son extrême, le monde devient absolument absurde. Et s'il n'y a pas de réalité objective, nous devons faire un saut de la foi, et c'est par l'expérience personnelle que nous devons faire ce saut. Quelque chose ne devient vrai que si je l'expérimente et en autant que cette vérité se relie à moi. Alors ça, c'est vraiment des vérités de l'existentialisme, des affirmations plutôt. Alors, cette quête de la réalité par l'expérience a conduit, bien entendu, à la culture de la drogue. Si une chose ne devient vraie que si tu l'expérimentes, bien sûr, il y a eu beaucoup d'expériences durant le temps de Flower Power, qu'on appelait aux États-Unis, là, où on faisait des expériences pensant que ce qu'on vivait, ça avait un lien avec des réalités qu'on ne voyait pas. Et tout ça, l'existentialisme a beaucoup contribué au développement de tout ça. En expérimentant la drogue, la personne espère qu'elle expérimentera la réalité et que celle-ci donnera une signification à sa vie. La drogue produit parfois des expériences de bien-être. Celles-ci sont cependant de courte durée et peuvent affecter le corps et l'esprit avec les abus. La quête constante pour plus conduit à la dépendance et ultimement à la mort. Dans l'existentialisme, les sentiments et les sensations, en anglais les feelings, on utilise souvent cette expression-là, sont centrales. Les sensations sont donc valorisées et recherchées dans la musique, dans le théâtre, dans le cinéma, dans les jeux, etc. Donc, on cherche des feelings. Cette dernière observation nous conduit à examiner la place de la télévision, qui est devenue le médium du postmodernisme. Elle est devenue un monopole radical. John Campbell, dans son livre « Communicating the Gospel in a Postmodern World », décrit la télévision comme étant omniprésente, capable de manipuler l'opinion, de renforcer le pluralisme, de remplacer la réalité en une très courte période de temps. L'apparence remplace la réalité, le charisme remplace le contenu et le résultat ou pragmatisme remplace l'intégrité. L'industrie du divertissement a répandu la philosophie du postmodernisme dans chaque foyer à travers la télévision, une des merveilles de la technologie moderne. Si l'apôtre Paul reviendrait aujourd'hui, nous devrions lui présenter l'avion Concorde, les autos Alfa Romeo, les téléphones cellulaires, les ordinateurs, les tablettes et la télévision. Dans les mains de véritables chrétiens, ça pourrait être, ces choses-là pourraient être utilisées sur une grande échelle pour des fins de bienfaisance. Alors, comme ça le dit dans Philippiens 4, 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, cependant, les réseaux de télévision sont dominés par ceux qui font la promotion du postmodernisme. Ces réseaux sont grandement influencés par le lobby gay. La télévision en Europe et en Amérique du Nord est hors de contrôle en ce qui concerne la modestie. Toutes les restrictions qui prévalaient autrefois sont disparues. La situation en est une de laisser-aller. La nouvelle technologie à fibre optique a permis la multiplication des canaux. Cela a créé un auditoire de plus en plus segmenté. Les téléspectateurs sont littéralement inondés de scènes de violence, de meurtre, de blasphème, de pornographie et de moquerie concernant Christ et la religion chrétienne. Comment peuvent répondre les chrétiens à de telles choses? Peut-être une des manières, c'est en s'en tenant à la programmation qui édifie, qui est de plus en plus rare, ou en enregistrant ses propres émissions, ou en écoutant des DVD chrétiens sur des sujets tels que la nature, le voyage, la musique de qualité, etc. Les effets de la trop grande indulgence envers la télévision sont déjà observables. De la paresse intellectuelle, une fragmentation de l'esprit et une diminution de la capacité de concentration des gens. Nous savons que lire un livre de 300 pages exige un engagement mental et une capacité de durée d'attention soutenue. La lecture encourage le développement de ses propres pensées. D'un autre côté, la télévision est dominée par la rapidité des images et est complètement saturée par celle-ci. Lorsque l'image submerge et subjugue l'écrit, notre capacité de penser, d'écrire et de communiquer dans une façon linéaire se trouve diminuée. Les idées sont disloquées, les images de la télévision sont versées dans nos esprits sous forme d'impressions, d'émotions et de stimulations. Les propositions et les phrases de l'écrit ne sont pas comme cela. Une proposition écrite est soit vraie, soit fausse, tandis que les images n'offrent pas cette dualité du vrai et du faux. La somme astronomique d'images et d'impressions qui sont dénuées de sens moral et de cohésion intellectuelle contribue à fragmenter l'esprit, ce qui est parfaitement en accord avec la philosophie du postmodernisme qui abandonne une vision unifiée et disciplinée du cosmos. Les personnes qui sont bombardées d'images de façon incessante sont amenées inconsciemment dans un monde d'irréalité. Les chrétiens courent le risque de passer beaucoup de temps devant leur appareil télé et de négliger des choses énormément plus profitables spirituellement, telles que la lecture et la méditation des Saintes Écritures, la prière et d'autres moyens de grâce. Lorsque nous lisons des livres, nous pouvons apprendre des grands penseurs et des leaders spirituels. La lecture engage notre esprit. Nous sommes en contrôle. Ceci n'est pas le cas lorsque je regarde la télévision. Lorsque je lis, je suis capable de m'arrêter, de méditer, de réfléchir et de souligner. Je peux reviser, reconsidérer et revoir les choses jusqu'à ce que je les maîtrise. La télévision contribue au pourrissement des valeurs morales. Les chrétiens modernes devraient développer de saines habitudes de lecture. En regardant beaucoup de télévision, nous risquons d'être victimes de ceux qui contrôlent l'agenda du postmodernisme, qui est hostile à la pensée autonome. Le postmodernisme prospère quand la fragmentation, l'incohérence, le manque d'unité et l'absence de signification règnent. La télévision rend les gens intellectuellement impatients et paresseux. Le grand impératif de la télé est l'amusement permanent. On sait que c'est intéressant de prendre le mot amusement. A, ça veut dire ne pas avoir. Mu, ça veut dire penser. Amuser, ça veut dire ne pas penser. Et on vit dans un monde où les gens ne cherchent que s'amuser. Alors en anglais, c'est incessant entertainment. L'amusement triomphe sur toutes les autres valeurs et rend captif. Tous les sujets, la guerre, les affaires, la législation, l'éducation, sont présentés d'une façon amusante ou stimulante. Si la télé ne divertit pas, elle est un échec. Ou si la télé n'amuse pas, donc il faut qu'elle t'empêche de passer. Le téléspectateur doit absolument être diverti, sinon il change de canal. Et je sais que c'est une vérité parce que quand on est sur le câble, on zappe, on pitonne, jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose qui nous amuse. C'est ça, c'est dans le fond, c'est exact ce qu'il dit là. Alors, dans nos églises, la mentalité télé s'insinue dans nos cultes lorsque les personnes désirent davantage être diverties que de recevoir une solide exposition des Saintes Écritures. Lorsque les chrétiens commencent à céder à leurs habitudes de vouloir être divertis, d'avoir de l'humour, des histoires, des anecdotes et des images, la véritable adoration à Dieu perd de son authenticité. Dans la culture postmoderne, les gens recherchent le « feel-good factor » en anglais. Tu veux bien te sentir. Et ça, c'est vraiment dans les églises, là, actuellement, en Amérique du Nord, dans beaucoup d'églises, c'est ça qui est rentré. Les gens veulent être bien, ils veulent s'amuser, ils veulent entendre des choses agréables. Et c'est comme un show. Et ça devient qu'il n'y a plus d'instruction, parce que c'est léger, c'est très dangereux. Sur le long terme, les producteurs de télé sont obsédés aussi par le sexe et l'immodestie qui prend une place de plus en plus grande et complètement incontrôlée. Moi, je me souviens des années 50, on regardait les annonceurs de télévision, les femmes, tout le monde était des cravates. Tout le monde avait un langage soigné. Je m'en souviens très bien, c'est clair dans ma tête, très clair. Maintenant, on voit beaucoup d'immodestie, énormément d'immodestie. Le langage est de plus en plus châtié. Et qu'est-ce qu'on retire comme bénédiction de ça? Pas grand-chose. Alors, cette attitude s'observe aussi dans le langage, bien sûr, utilisé dans les émissions. La télé a aussi des effets pervers sur les jeunes en les inondant d'images de magie, de valeurs du nouvel âge, de violence, de meurtre, de langage ordurier. J'ai un livre à la maison que j'avais lu en même temps que j'étais à l'école biblique, qui voulait qu'on lise ça. C'était un livre sur les émissions de télévision du matin pour les enfants, là, samedi. Quand tu regardes ça, le contenu de ça, là, c'est vraiment ça. Magie, valeurs du nouvel âge, violence, meurtre, langage ordurier. Puis, si tu rentrerais dans les maisons des chrétiens, qui ont des jeunes enfants, est-ce que ce serait si différent que ça?
Regarde les Simpsons.
Exactement. Oh mon Dieu, oui. C'est épouvantable. Alors, la révolution sexuelle va maintenant bien au-delà des relations extra-conjugales et des activités hétérosexuelles. Quand on regardait, par exemple, il y a quelques années, la révolution sexuelle, c'était les relations extramaritales et les activités hétérosexuelles, en gros. Toute une panoplie de comportements, maintenant, sont exposés à travers les médias. Le sadomasochisme, on voit de plus en plus, même dans les publicités, on voit des allusions à ça. La bisexualité, de plus en plus, on nous en montre carrément... Deux homosexuels, deux lesbiennes qui s'embrassent en public, en pleine télévision. L'homosexualité, La pornographie, on dit qu'un tiers d'Internet, c'est de la pornographie. S'il y a des milliards de pages sur Internet, ça veut dire qu'il y a des centaines de millions de pages de vidéos, de livres, d'images et de tout ce que tu voudras. La pédophilie qui s'en vient de plus en plus aussi répandue et défendue. Et même, on commence, la bestialité n'est pas très loin. Ça va arriver bientôt. Alors, le chrétien se doit de réagir vigoureusement pour éliminer de sa vie de téléspectateurs tout ce qui est indécent et immoral. Nous devons plutôt favoriser et promouvoir ce qui peut nous faire croître en grâce, comme c'est dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Alors, j'ai mis quelques applications. Au milieu de ce naufrage de la société postmoderne, nous devons nous mettre à l'œuvre pour développer les forces suivantes. Première, maintenir une forte vie dévotionnelle, prière, culte personnel, culte familiaux, culte d'église, rapport quotidien avec les saintes écritures, les lire, les écouter, les étudier, les méditer, les mémoriser, lire des œuvres écrites édifiantes, contrôler de façon stricte son rapport avec la télé et Internet, le développement d'habitudes d'évangélisation et toutes les formes d'amour envers les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Donc, une forte vie dévotionnelle, ça implique beaucoup de choses. Deuxième application, être vigilant dans la santé et l'encadrement biblique des relations sexuelles, matrimoniales et aussi de vie familiale. Troisième application, cultiver notre amour pour le Christ et pour les frères et sœurs en Jésus-Christ. Quatrième application, contribuer à maintenir une église locale forte qui combat vigoureusement les attaques du postmodernisme. 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu étendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Tenons-nous debout devant le postmodernisme en proclamant haut et fort les merveilleuses, absolues et immuables vérités de la parole de Dieu et en nous aimant les uns les autres, ceux en Christ, et en aimant notre prochain avec l'amour de Christ. Que l'Éternel nous donne du courage, du discernement et de la fidélité au milieu d'une génération perverse qui a rejeté Dieu. Pour sa grâce et pour sa gloire. Amen.